Enfin, un peu de femmes dans le podcast.
Ouais.
Après avoir reçu environ 2 milliards d'hommes et 2 filles, cette fois-ci, je suis avec Nathalie Huffner, aussi connue comme étant la fille du Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles. Nathalie, merci beaucoup d'être venue chez moi.
Merci de m'interviewer.
En général, je préfère que les gens disent merci à la fin.
Je le redirai alors à la fin.
En plus, on a failli pas faire l'interview. J'ai eu des problèmes techniques pendant à peu près 10 minutes. Et c'est toujours gênant, des problèmes techniques, parce que tu dis, admettons que je trouve pas la solution, alors que c'est toi qui t'es déplacé, je suis obligé de te renvoyer à la maison et c'est...
Oui, c'est pas simplement parce que c'est une humiliation un peu masculine de pas avoir assuré au niveau technique, tu vois ce que je veux dire?
Ah! Non. C'est une bonne question. Genre un peu comme si tu ramènes une fille à la maison, puis t'as une panne et tu dois dire, non mais on couchera ensemble demain.
Oui, non.
Est-ce que tu crois que c'est déjà arrivé que ça marche? Le gars, je pense une fois que t'as une panne, si c'est pour
C'est foutu, quoi.
Et tu veux plus la recroiser jamais,
non.
D'après moi.
Oui. Je sais pas, il y a des filles gentilles, tu vois, ou des filles très amoureuses, platoniquement, donc qui sont prêtes à attendre que la panne se dépanne, quoi.
Mais je crois que c'est pas la même. Qu'est-ce qui est pire, avoir une panne avec quelqu'un avec qui tu sors ou quand c'est un one-shot?
Moi, je crois que c'est pire avec un one-shot. Enfin, je dis, c'est pire avec une fille avec qui tu sors. Ça peut arriver. Ou alors une panne qui dure un an ou 6 mois. Bon, oui. Ça, c'est embêtant, c'est une panne.
Ouais. Moi, je pense que ça doit être moins pire avec qui tu sors. Parce que, en fait, non, c'est pas vrai. Ça doit être pire en one-shot. Sur le coup, ça doit être beaucoup humiliant quand c'est un one-shot. Mais après ça, tu te dis, si je la recroise jamais, c'est pas trop grave.
Mais ça dit que peut-être qu'au Canada, tu pourrais ne jamais la croiser. Bruxelles, tu vois, c'est un village, il y a quand même plus de chances.
C'est un village à mort, Bruxelles.
À fond, oui.
Et toi, c'est quelque chose que t'aimes ou le fait que ce soit un village ou ça?
Écoute, ça ne me dérange pas. Je suis plutôt. Autour de moi, il y a plein de gens qui partent, qui décident vers mon âge d'aller s'installer ailleurs.
Vers ton âge, t'es pas obligé de dire précisément, mais ça donne.
Oh, je m'en fous. Moi, j'ai 50, hein, donc voilà. Et du coup, j'entends beaucoup de gens qui disent je veux partir. Et moi, en fait, je crois que le côté village, j'aime bien. En fait, j'aime bien. Mais j'aurais pu vivre aussi à New York. J'aurais pu vivre peut-être à Montréal. J'en sais rien. J'aurais pu vivre ailleurs. J'adore la ville aussi, mais j'aime bien Bruxelles, en fait.
Et c'est vrai qu'en plus, toi, donc, au Théâtre de la Toison d'Or, c'est un genre de village dans le village aussi. J'ai l'impression que quand tu y vas... Moi, je suis allé, donc, je sais pas, 7-8 fois dans ma vie. T'as l'impression de recroiser quand même souvent des mêmes personnes. C'est une petite communauté, non?
Sans doute. Enfin, ça, je me rends pas compte, parce que moi, depuis quelques années, quand je suis au théâtre et que je vais voir un spectacle dans mon théâtre, en général, je rase les murs ou bien je regarde par terre parce que je n'ai plus autant de plaisir à papoter avec tout le monde et n'importe qui.
Sérieux?
Oui, un petit peu. Je suis un peu fatiguée de ça, en fait. Donc, parfois, je regarde par terre pour pas croiser des gens que je connais ou que je connais pas mais qui commencent à me parler. Et c'est pas du tout de l'antipathie, c'est parce que je suis fatiguée un petit peu de ça, en fait.
Tu sais, quand je faisais les petits matins, il y en a qui disent « Ah oui, mais t'as toute ta journée après des couilles. » Parce que quand tu t'es levé à 4h du matin, le reste de ta journée, c'est pour genre espérer mourir ou aller te coucher. C'est tout. Il y a zéro énergie.
Ouais.
Et des fois, ça arrivait, tu vois, sur le trottoir, mettons, au loin, quelqu'un que tu connais, et tu dis « J'espère que je l'ai vu avant lui et changer de trottoir. »
Voilà.
Parce que pour moi, ça a l'air d'être impoli, mais je trouve ça plus poli se dire « Ah, si j'ai une conversation avec, ça va être chiant pour lui. » Et donc, je préfère éviter tout contact social.
Mais oui. Et puis, parce qu'on n'a pas toujours quelque chose à dire. Et puis aussi, dans notre métier, on attend de nous qu'on ait tout le temps quelque chose à dire. On attend de nous d'être toujours drôle. Enfin, voilà.
Alors
donc,
que je te connais dans la vraie vie.
Sinistre. Je suis sinistre. C'est comme ça.
Mais blague à part, on va reprendre un tout petit peu du début. Moi, je te connais comme étant donc, la fille du Théâtre de la Toison d'Or. Il y a eu beaucoup d'autres choses. J'ai fait quelques recherches sur les internets, forcément. Mais ça fait combien de temps déjà, le Théâtre de la Toison d'Or?
17 ans.
Ah oui, 17 ans.
Oui.
Et c'est quoi? C'est toi qui as racheté? C'est subventionné?
Non,
comment ça marche?
Non. En fait, on est 5 associés. On a ouvert le théâtre il y a 17 ans. On est 5.
Ah, que vous l'avez créé, le théâtre?
On a créé le théâtre. C'était un cinéma qui était fermé depuis une quinzaine d'années. Il y avait 2 salles. Et donc, mes parents ont eu un magasin dans la galerie La Toison d'Or pendant 25 ans.
Oui, pour ceux qui ne voient pas Bruxelles, en gros, c'est ça. Tu as un gros cinéma à l'UGC. Tu as une galerie commerçante. L'avenue Louis, c'est un peu le 5e avenue à New York pour prendre une comparaison un peu flatteuse.
Bouf, oui. Très flatteuse.
Très flatteuse. Et donc, voilà, à l'intérieur de ces galeries-là, tu as le Théâtre de la Toison d'Or qui est un 300...
296 galeries La Toison d'Or, mais c'est...
Non, le nombre de places dans le théâtre. théâtres.
Ah, 220.
Donc 220 voilà. places ouais. avec bon, une programmation à l'année. Donc voilà, pour voilà. situer pour ceux qui ne sont pas voilà. nécessairement tous.
Et donc pour revenir, donc moi j'étais une comédienne, simplement j'étais une comédienne, et je me suis entourée d'une équipe de gens qui n'étaient pas du tout comédiens, pas du tout artistes, et on s'est dit tiens, est-ce qu'on n'ouvrirait pas un lieu ? Parce que moi, je me produisais déjà toute seule dans des lieux comme le Théâtre de la Samaritaine à Bruxelles, qui est un petit café-théâtre, et chaque fois que je faisais quelque chose, ça marchait, il y avait du monde. Et on s'est dit tiens, c'est un peu bête, pourquoi pas essayer de trouver un endroit où je pourrais plus m'installer et puis aussi produire d'autres gens. Donc c'était dans cet état d'esprit là qu'on a ouvert le Théâtre de la Toison d'Or. On était cinq et je me suis entourée de mon mari Albert, de Sylvie Rager qui, comme Albert, était ingénieur commercial, donc tous les deux ils ont étudié Solvay à l'ULB, donc c'est des gens plutôt sérieux, puis ma meilleure amie d'enfance et son mari. Et donc on a loué le théâtre, mais on a fait des travaux, ça ne nous a pas coûté très cher, et pendant 17 années on a loué, et depuis cette année on est propriétaire en
fait. Ah ok, ben, voilà. Je ne savais même pas.
Ouais, ouais.
Et à Bruxelles, c'est un théâtre qui a l'image... Moi, c'est la première image que j'avais, c'est donc théâtre bruxellois,
ouais.
Très gay-friendly.
Ouais.
Et je m'étais demandé pendant un bout de temps si tu étais lesbienne ou pas.
Oui, je comprends qu'on se soit posé la question.
En me disant, évidemment. Est-ce que ça vient de... que c'est ta communauté, elle-même l'est, ou c'est que tu as croisé gens, ou c'est complètement par hasard que c'est arrivé comme
non,
ça?
Moi, je crois
ou c'est une fausse image que je me fais peut-être aussi?
Non, si tu as c'est une vraie image, c'est gay-friendly total, c'est clair. Mais ça n'a pas toujours été. Depuis le début, non. ça n'est pas, c'est venu comme ça à force de rencontres et puis de mes affinités, parce qu'effectivement peut-être que mes origines juives font que je me suis retrouvée dans la communauté gay à trouver des accointances au niveau de l'humour, en fait peut-être que
ouais, y a des...
ou dans le côté aussi communautaire, je sais pas, j'ai peut-être qu'il y a eu des espèces de rencontres qui sont faites d'une manière assez évidente, mais c'est devenu très gay-friendly avec ma rencontre avec Sébastien Ministru. Donc, quand j'ai rencontré Seba il y a maintenant 13 ans et qu'on a fait notre premier spectacle ensemble, c'est plus ou... il y a eu une pièce avant lui qui était très gay-friendly, mais après, c'est vraiment ma rencontre avec lui qui a été déterminante à ce niveau-là.
C'est vrai qu'il est très peu hétéro, Sébastien Ministru.
Très peu hétéro.
On va pas se mentir.
Non. Non,
très peu.
Non.
et comment ça fonctionne pour remplir? Donc, vous faites combien de pièces par année déjà?
Écoute, ça varie entre, je dirais, 6 et 8 pièces, mais ça va plus vers 6-7 pièces. J'aime pas trop en faire. On n'est pas très mégalo, donc on a toujours été très prudent. Il y a toujours une très bonne gestion. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au bout de 17 ans, on est toujours là parce qu'on n'a pas été subventionné tout de suite.
Ben oui, c'est ça ma question. Comment tu fais pour vivre avec du théâtre? Mettons, si à 12 ans, tu dis à tes parents, papa, je vais acheter un théâtre, il va probablement te demander, ça va être quoi ton vrai boulot pour pouvoir survivre après? Ou viens me revoir quand tu auras fait faillite.
Oui.
Et vous, donc, 17 ans, et tu me dis que ça fait peu de temps que vous êtes subventionné. Parce que la plupart du temps, c'est ça pour survivre les théâtres, c'est les subventions, non?
Ben, ça dit que je crois que le théâtre sans subvention, c'est pas possible, mais dans notre genre de théâtre, c'est-à-dire la comédie, ce qui est plus commercial que le théâtre des Tanneux, qui va faire des créations un petit peu sérieuses ou ennuyantes, je sais pas comment, je sais pas quel mot utiliser, mais non, c'est méchant ce que je dis, parce que en plus j'aime bien aller voir des choses parfois qui se font ailleurs, contrairement à eux qui viennent peut-être pas voir ce que nous on fait. J'adore aller voir ce que les autres font, en fait.
Culturellement, il y a un snobisme envers l'humour qui c'est vraiment la poubelle de la culture pour une série de personnes, l'humour. Alors qu'il y a du mauvais humour, mais je suis désolé. Moi, j'aime aussi, on dit, lire des livres compliqués ou checker des trucs plus prises de tête. Mais il y a des trucs qui se cachent derrière le fait que ce soit prise de tête pour simplement masquer le fait que c'est de la grosse bouse.
Ben, il n'y a rien derrière, quoi. En fait, c'est vraiment des gens qui se touchent et qui se racontent des histoires. Maintenant, ceci dit, il y a des théâtres dits sérieux ou dits plus intello où il y a des choses fantastiques qui s'y font. Et pour ces gens-là, pour ces théâtres-là, c'est normal que la subvention existe parce que ce sont des théâtres laboratoires, donc c'est comme de la recherche.
Oui.
On donne de l'argent pour la recherche, et ben pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas de l'argent pour de la recherche théâtrale? Voilà. Maintenant, moi, j'ai le sentiment parfois que chez nous, à la Toison d'Or, au TTO, on fait de la recherche parce qu'il y a beaucoup de créations, il y a beaucoup de spectacles qu'on crée là et qui n'ont jamais été joués ailleurs. Donc pour moi, c'est aussi une manière de faire de la recherche. Sauf que je crois que mon goût du théâtre, mon goût, a rencontré le goût de beaucoup d'autres.
Donc c'est, tu vois, entre guillemets, il y a du travail, là, je ne vais pas réduire le travail, mais entre guillemets, c'est une espèce de coup de bol que ton goût soit justement commun avec plusieurs personnes.
Voilà, c'est ça. J'ai un goût probablement qui est... très large et qui a, oui, voilà.
Et c'est fou parce que c'est des fois vu comme étant une insulte de dire que t'as, en gros, t'es commune.
Oui.
Mais j'ai lu dernièrement une étude qui je trouve super fascinante, mais la beauté humaine. Donc, si tu montres à quelqu'un 50 visages,
ouais,
et que le 51e, c'est la somme de tous les visages,
ouais,
c'est le 51e visage que les gens vont trouver le plus beau.
Ah oui, oui.
Donc,
oui,
la somme de tout ce qui est connu.
Oui, oui,
donc,
oui.
Pour moi, il n'y a pas de. C'est pas Satan. C'est pas Satan d'être populaire et c'est pas non. Satan d'être commun.
Oui, oui.
Et comment ça fonctionne? C'est surtout des abonnements? C'est comme ça que vous avez
réussi? Non, non, on a des abonnés, mais non. Ça a fonctionné pendant longtemps, spectacle par spectacle, tu vois. Donc, par exemple.
Vous faites un mois par spectacle, plus ou moins?
Ça dépend. Par exemple, Boeing Boeing qu'on a eu en début de saison, on a fait quand même 7 à 8 semaines, tu vois.
Ah, oui.
Donc, parfois, où Laurence, dans les premiers One Woman Show de Laurence, il y a des années, on faisait 8 semaines. Et puis, on reprenait l'année d'après, c'était de nouveau 8 semaines. Les pièces de Sébastien Ministru, la même chose. On a fait parfois des 8 semaines. Mais il y a des spectacles. C'est moi qui jauge un peu, qui me dit, tiens, telle pièce, je dirais 3, telle pièce 5 semaines. C'est instinctif. Et parfois, on se plante. Donc, et souvent, on se plante dans le bon sens. Ça dit qu'on fait trop peu, alors qu'il y avait un potentiel pour plus, tu vois.
Mais il n'y a pas énormément d'endroits en Belgique où il y a des spectacles comiques qui durent, qui sont comme résidents,
non,
qui durent plusieurs semaines
non,
au même endroit,
non?
Il
n'y en a pas beaucoup, non. Non.
Il n'y a
déjà pas beaucoup d'endroits consacrés essentiellement à l'humour. Déjà, je crois que c'est pas il n'y a pas une tradition de l'humour en Belgique au départ.
Non, je ne sais pas.
Mais c'est-à-dire qu'elle commence à venir, mais à la base, c'est que je crois que le Belge a tellement été traité de con et d'imbécile pendant des années par les Français et tout ça, qu'on a un peu développé une espèce de complexe du con. Et du coup, je trouve que, en tout cas en théâtre, chaque fois qu'il se faisait quelque chose, c'était plutôt prise de tête, avoir l'air d'être sérieux, quoi, tu vois. Et donc.
En réaction.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Et quand moi, j'ai étudié au conservatoire de Bruxelles, donc pour être comédienne. Et franchement, à cette époque-là, j'étais une des seules qui était absolument décomplexée face à l'humour et qui disait « j'ai envie de faire ça ». Parce que mes profs, ils me faisaient travailler du Claudel, ils me faisaient travailler des choses, mais pas du tout pour moi, mais c'est ce que j'ai fait au conservatoire. Et en fait, ce que je voulais faire à l'époque, c'était faire rire. Mais on n'était pas nombreux, en fait. Et aujourd'hui, je crois que les écoles, en tout cas, genre le conservatoire, il y a beaucoup plus de jeunes qui ont envie de le faire parce que c'est devenu culturellement... C'est plus là, aujourd'hui, qu'à l'époque, quoi, tu vois.
Moi, je pense que l'humour, c'est les nouvelles... les jeunes qui veulent faire de l'humour... Comme à l'époque, je crois que les jeunes voulaient faire de la musique, ils voulaient faire du rock.
Oui.
Il y a une espèce d'engouement. Et
oui.
Mais quand tu vois aussi, il y a des humoristes qui ressemblent de plus en plus à des rockstars aussi.
Oui.
Quand tu vois qu'ils remplissent des salles, qui ont fans, qui font du cinéma, qui sont riches, qui ont une vie de jet-set. Quand tu vois Jamel Debbouze qui sort avec Mélissa Tourelle.
Oui.
Gad Elmaleh qui s'en va jouer dans des films de Woody Allen.
Oui.
Ça fait envie.
C'est les rockstars. Oui, c'est les nouvelles rockstars, c'est vrai.
On n'en a pas encore un million de rockstars.
Non, non, ça malheureusement, on est loin du million, même peut-être pas même de la dizaine, donc voilà. Oui.
Tu parlais du complexe. Moi, c'est un truc qui m'a frappé et il continue de me frapper. Ça fait maintenant 8 ans que je suis en Belgique. L'espèce de réflexe de « oui, mais nous, on est petits
».
Alors que c'est... Je l'ai dit plein de fois, mais tu compares au Danemark, à la Suède, même au pays. On n'est pas... Il y a plus de Belges que de Québécois. Hein. On n'est pas spécifiquement plus petits ici, mais il y a cette espèce de... s'excuser à chaque fois.
Mais tu crois pas que c'est parce que nous sommes à côté de la France?
Ah, clairement, vous avez la même chose que les Canadiens anglais ont par rapport aux États-Unis.
Voilà, c'est ça.
Peu importe ce que tu fais, t'as l'impression que t'as quelqu'un qui a 10 fois les moyens à côté de toi.
Voilà, exactement. Tout à fait. Je crois que c'est ça, en fait.
Mais alors, quand tu regardes... je peux comprendre peut-être sur scène ou au cinéma, mais quand tu regardes... Puis même encore au cinéma de moins en moins, mais...
Oui.
Quand tu regardes en télé...
En télé, mais attends. Tu compares Paris Première et Télé Bruxelles... qui sont censés être des télés locales similaires. Enfin, c'est une blague, quoi, tu vois. Nous, c'est la télévision, on dirait une télé de l'Est d'il y a 35 ans, quoi.
Mais n'empêche, il y a un point que tu dis que je trouve qui est bon. Quand on parle de programmes télé qui sont intéressants, et c'est ce qui est en train de se passer aussi en comédie aux États-Unis, j'entendais une question, où sont les humoristes maintenant? Avant, tu avais des huge sitcoms, genre des Ray Romano avec Everybody Loves, Tout le monde aime Raymond, je crois qu'ici, Seinfeld, pour prendre l'exemple.
Oui, bien sûr.
Aujourd'hui, sur des grosses chaînes, il n'y en a plus, mais il n'y en a plus de la même qualité, et il s'est développé une série de petites chaînes autour, et c'est là-dessus que c'est créatif.
Oui.
Les, enfin, sans vouloir faire du name dropping, mais dans toutes les chaînes, effectivement, Netflix de ce monde et Showtime, etc. etc.
Oui.
Et en France, j'ai l'impression aussi, quand tu, de plus en plus, quand j'entends des programmes intéressants, nouveaux, novateurs, oui. t'entends plus justement les trucs de la TNT ou les Paris
oui.
Premières.
Oui.
Ou les...
oui. Oui.
Et j'ai l'impression que c'est, qu'il n'y a pas ça en Belgique.
Non.
Il n'y a pas de chaîne alternative nécessairement.
Non, c'est vrai.
C'est soit les grosses
oui.
ou les oui. petites. J'ai des Télé Bruxelles, probablement, qui voudraient faire des choix de
programmes. Ils veulent, certainement. Mais,
voici 6 euros, fais-nous oui. une heure de programmation.
Je crois que c'est parce qu'on est très... J'ai l'impression que les chaînes nationales ici sont très étouffées, sont très politisées, sont très étouffées. Donc, on ne peut pas tout faire. On dépend de... Et je trouve que les chaînes télé en Belgique sont très frileuses, sont très... oui, elles sont frileuses. Dès que tu proposes un truc...
T'as proposé des trucs, toi?
J'ai parfois été associée à des projets, mais je n'ai pas proposé moi-même des trucs.
Parce que j'ai vu une caméra cachée que tu avais fait
ah
dans
oui.
une émission belge où c'est
le Jard.
Un faux shooting photo avec Boom Penza et
le Jonathan Le Jard. Ah, oui. Jonathan Le Jard, oui.
Oh, si vous ne l'avez pas vu, vous devez ça à vous-même d'aller le voir. Je ne la connaissais pas, j'ai regardé où je trouvais aujourd'hui.
Oui.
Et c'est, juste teasing comme ça. Jonathan Lejar en string qui se fait verser de l'eau sur la tête
oui.
avec une pose sexy.
Oui, voilà.
Où il fait semblant d'être un surfeur.
Fantastique. Ça, je l'ai fait pour mes fils et mon mari qui sont donc absolument fans de foot. En tout cas, un de mes fils et mon mari. Et j'ai dit, bon, c'était RTL, donc ils m'avaient appelé pour faire la caméra cachée. Et au départ, c'est pas tellement mon truc. Et puis j'ai dit, bon, pour eux, je dois le faire, quoi. Et donc j'ai été.
Et c'est la seule que t'as fait, la caméra cachée?
Oui, j'avais fait, mais.
Mais le programme a pas duré non plus.
Non, c'est ça. Ils m'auraient reproposé, peut-être que je l'aurais fait. Je sais même pas dans quoi c'est passé.
Je crois que ça vous fait rire. C'est un truc oui. qui avait tenté, il me semble, un été avec Maria Del Rio, si ma mémoire
oui,
est bonne.
Oui, peut-être.
Mais qui avait pas oui. du tout, malheureusement.
Mais je crois qu'il y a très longtemps, il y a 25 ans, j'avais participé à un programme numéro 0 avec Soda, qui était l'animatrice. Et donc, on me faisait faire des micro-trottoirs et qui avait été très drôle parce que je crois que je ne suis pas mal à l'aise à. J'aurais été assez bonne en fait en micro-trottoir ou en caméra cachée. J'aurais pu avoir facilement une relation, un contact avec les gens et leur faire dire n'importe quoi, je crois.
Et pourquoi tu parles au passé?
Oh, écoute, Dan, je fais tellement de choses. Et puis à un moment donné aussi, non, c'est pas ça, mais. Oh, comment expliquer
T'as l'impression que ta chance en télé est passée? Ben, ta chance, peut-être que t'en foutais en plus, mais.
Non, je si tout à coup demain, on me propose quelque chose. Il y a des gens, tu vois, qui me proposent. Enfin, on m'en parle pour l'instant, par hasard. Mais si on me proposait quelque chose, c'est parce qu'en fait, je ne suis plus dupe, en fait. Et donc, des projets que tu proposes et qui se font remballer, tu y crois. Enfin, moi, j'ai eu des frissons dans ma vie 10 fois où je me dis, ça y est, on me propose un truc et puis, en fait,
ton
ça ne se fait
break,
pas, tu vois. Donc, c'est pas du tout que je suis désabusée, pas du tout, parce qu'au contraire, je travaille, j'ai envie d'être encore créative, je suis toujours excitée à l'idée de créer des nouvelles idées et j'ai la chance d'avoir ce théâtre pour m'exprimer, tu vois. C'est fantastique, c'est une chance incroyable. Voilà, si la télé vient, pourquoi pas, mais ce n'est plus un rêve, ce n'est pas un objectif, tu vois, voilà.
Tu penses pas à ça en t'endormant le soir?
Non, non. Et puis bon, je suis aussi réaliste, j'ai 50 ans.
Ah oui, en télé, une fille plus de 40 ans.
Ben c'est ça, tu vois. Ben oui, voilà.
Mais toi, t'as la chance d'être honnêtement, pour ton âge, ça va encore.
Je sens le flatteur, là. Toi, tu veux faire un one-man show, t'as de la façon d'or un jour. Ça, je le sens. Non, mais...
Avec du semi-compliment, disant, honnêtement, pour une vieille, tu te débrouilles. Non, un petit mardi où il n'y a pas de faute, il y a moyen,
oui.
quoi.
Oui, oui, non, mais bon, non, mais... non, mais ce qu'il y a, c'est que les femmes de 50 ans aujourd'hui, ne sont pas les mêmes que les femmes de 50 ans il y a 30 ans.
50 ans, 50, voilà. C'est le nouveau 40, hein?
Voilà, c'est ça. Peut-être.
Et c'est avec la chance, ça change comme ça tous les 10 ans.
Oui.
80 sera le nouveau 40 à un moment donné.
Oui. Non, écoute, moi, j'avais comme modèle un homme, ce qui est paradoxal. Je pensais toujours à Marc Moulin.
C'est le modèle de tout le monde.
Je sais que c'est le modèle de tout le monde.
J'ai entendu zéro personne dire quelque chose de négatif sur lui, sauf une fois quelqu'un a dit, je crois qu'il était tellement intelligent que des fois, ça l'a bloqué dans certains projets.
Oui, moi ça je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, il avait d'autres défauts, mais que je ne dirais pas. Mais c'était un type qui était incroyablement moderne, qui était incroyablement intelligent, drôle, c'était un génie en fait, voilà, mais très moderne. Et donc, il a écrit des pièces de théâtre pour la Toison d'Or, pour nous, pour moi, il a écrit 3 rôles dans 3 pièces à la Toison d'Or, et chaque fois je le regardais, je me disais... Ah! Et quand il avait 50 ans, avec Laurence Bibot et Soda, on avait joué une pièce qu'il nous avait écrite pour nous. Et on disait, tu te rends compte, il a 50 ans. Mais c'est pas possible. Il a 50 ans. J'ai aujourd'hui 50 ans. Et donc, pour moi, il avait l'air d'avoir 35, quoi, tu vois.
Ouais.
Et il est mort, Marc, il est mort, quoi, à 66 ans. Mais c'était pour moi un type qui allait être jeune toute sa vie. Et chaque fois, je me disais, je veux vieillir comme lui. Pas physiquement, mais dans sa tête, quoi. Tu vois, c'est un type moderne qui était dans l'air du temps. Et c'est ça, en fait, qui est une de mes fixations et de mes obsessions. C'est à un moment donné devenir ringarde ou à un moment donné être dépassée par les plus jeunes. Et ça va arriver si ça ne l'est pas déjà.
Ouais.
Mais ça, c'est ce qui m'effraie le plus, en fait.
C'est pour ça que tu continues de faire faire jouer des jeunes aussi à Toison d'Or. Parce que tu as eu Walter, Alex, tu as eu les voyageurs sans bagages et trucs.
Oui, oui,
pour
oui.
pas justement, entre guillemets, sans bourgeoisie. J'avais une clientèle de 17 ans, puis tout le monde vieillit en même temps. Puis,
c'est exactement.
Puis finir avec des têtes dansantes dans 20 ans.
Voilà, et des têtes bleues dans la salle, tu vois, les cheveux bleus.
Ouais,
non, non, ou roses. Mais évidemment, attends, c'est obligé. Par exemple, ce que vous avez fait ou ce que tu as fait, je ne sais pas très bien, au King's Comedy, où vous avez donné la parole à des jeunes.
Oui, le tournoi, Next
voilà.
Prince of Comedy. Ouais.
Eh bien, pour moi, l'avenir, elle est là-dedans. Elle n'est pas pour l'instant ailleurs. Elle est là-dedans. Je ne sais pas si vous avez trouvé des gens intéressants.
Oui.
Voilà.
Et puis, c'était des soirées, c'était rempli, mais jusqu'à la porte.
Voilà. Alors, il y a un côté commercial qui est intéressant, certes, ouais. On est d'accord.
Mais je dis, ça intéressait... intellectuellement aussi, oui, c'est intéressant commercialement, mais il y avait des gens qui se déplaçaient pour venir voir
voilà,
des shows.
Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est là-dedans que tu vas trouver les gens de demain. C'est là, c'est ceux-là, c'est eux qui doivent se former, et c'est là-dedans que vous allez trouver...
Mais celui qui a gagné, pour prendre un exemple,
oui.
Dans ce cas, qui s'appelle Georges, c'est un fonctionnaire de plus ou moins 40 ans. Qui avait...
Ah, il n'est pas jeune, jeune.
Non, qui avait...
okay.
Mais il n'avait jamais fait ça de sa vie.
Oui.
Et il est venu, et il a un style à la, pour faire du name-dropping un peu.
Oui.
Stephen Wright, un Américain.
Mais je ne connais pas.
C'est un Américain qui parle... je ne sais pas si c'est son gag, mais c'est plus ou moins des trucs comme... une question que je me pose. Quand les nains jouent au polo, est-ce qu'ils utilisent des poneys? Et c'est que des trucs comme ça super.
C'est comme le Canadien, le Québécois, là. Il y en a un comme ça, très drôle. Comment il s'appelle? Que Luc adorait. Dis-moi des noms.
Jean-Thomas Jobin.
Non.
Pierre Légaré.
Oui, Pierre Légaré.
Oui, c'est ça.
C'est un peu ce genre-là, non?
Mousse à raser revitalisante.
Oui.
Si je la rase, pourquoi je voudrais la revitaliser?
Voilà, voilà, c'était Pierre Légaré qu'on a entendu à une époque un peu en radio.
Il a complètement arrêté, lui.
Sur
c'est un,
ah,
un
oui?
ancien psychologue.
Oui.
Qui a arrêté, il était malade pendant un bout de temps, il était très pote avec Bruno Coppens aussi,
ah oui.
Et ils ont fait des trucs un
oui,
peu
oui,
ensemble.
Oui.
Et donc voilà, donc le Georges en question, il y a un gars, il parle il vraiment tout doucement comme
ouais.
ça, puis il dit « La fin du monde, le 21 décembre, ce qui fait qu'avec Noël et le jour de l'an juste derrière, ça va nous faire une semaine chargée.
»
Et c'était que des trucs
ouais.
comme ça pendant ça, et tu dis « J'en connais pas
oui.
des gens qui... » Donc c'était aussi... plein de nouveaux qui viennent faire des gags, mais des gens qui sont différents, qui ont
originaux,
qui auraient leur place nulle part. Le gars peut pas proposer directement une heure de spectacle parce que tu te demandes de où, de quoi, de qu'est-ce.
Mais moi, ça, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est des gens... En fait, quand j'ai demandé à Marc Moulin ou à Sébastien Ministru d'écrire des pièces pour la Toison d'Or, c'était des gars qui avaient jamais écrit de pièces de théâtre de leur vie.
Ah, sérieux? Je pensais que Sébastien Ministru, c'était...
Jamais! Sa première pièce, il a écrite pour le Théâtre de la Toison d'Or. C'était d'ailleurs un one-woman show, puisque c'était moi qui jouais toute seule à ce moment-là. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est des gens qui viennent d'ailleurs, et parce que des gens drôles et intelligents, tu les trouves pas spécialement dans notre milieu. Tu les trouves chez des médecins, chez des journalistes, chez des avocats. Enfin, tu vois, tu peux les trouver partout. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait.
Et je pense effectivement qu'aujourd'hui, c'est un tout petit peu plus facile qu'avant. Quand tu, mettons, si tu étais médecin à 39 ans, justement, et puis tu voulais faire de l'humour, il n'y avait pas vraiment de porte où aller frapper.
Oui.
Alors que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a plus d'occasions de venir se tester. Nous, le tournoi, ça commençait la première ronde, c'était 2 fois 3 minutes.
Oui.
Donc, à la limite, tu te plantes 6 minutes, c'est pas, ta vie n'est pas chamboulée. Tu vois, c'est pas comme ça que tu te demandais. Il y a un truc que je me demandais, et c'est horrible parce que je me rends compte qu'il y a juste aux filles à qui on pose la question. Tu parlais de vieillir, tu parlais de spectacle. Donc, une fille comique qui vieillit, est-ce que toi, ton image, t'as l'air d'en avoir, je veux pas dire rien à foutre, mais d'être consciente que ça t'arrête pas.
Oui.
Est-ce que t'as l'impression qu'on te juge différemment? Et c'est con, j'aurais posé la question aux hommes aussi, et j'avoue que je le fais pas parce que je sais pas pourquoi. Mais est-ce que t'as l'impression que ça compte, l'image?
Physiquement?
Ouais, physiquement, quand t'es une fille comique.
Ça, je sais pas. Je n'ai pas de réponse à
ouais,
ça.
Ouais, mais t'as pas de comparaison, forcément, t'as toujours été une fille. Donc,
bah, à une époque.
Sauf...
On... Mais oui, c'est ça, voilà, exactement, on ne sait jamais. Mais gay friendly. Mais maintenant, enfin, maman friendly, puisque oui. les travestis. Mais maintenant, ceci dit, on disait à une époque qu'on ne pouvait pas. Parfois, t'entends des types qui disent on peut... une fille drôle, peut... ou une fille belle ne peut pas être drôle.
Ah,
ou...
couilles,
tu vois, mais je ne sais, mais je n'ai même pas d'avis là-dessus, et je crois que c'est vrai, pas vrai.
C'est ce que je
ça
pense.
Ça dépend,
ouais.
tu vois.
Je pense que les belles filles sont peut-être moins drôles pour la même raison qu'un gars riche va être moins drôle ou qu'un très bon sportif oui. va être moins drôle. C'est, je pense que drôle, c'est une... Et puis, encore une fois, peut-être que je dis des conneries puis vous êtes
oui, oui.
d'accord, mais c'est quelque chose que tu développes pour arriver à exister socialement.
Oui.
Et si t'es, je veux dire, canon, chez canon, gars comme fille, by the way, hein,
oui,
mettons,
oui.
T'es fucking Johnny Depp.
Oui, oui.
T'as pas besoin de développer quoi que ce soit pour que les gens viennent te parler. Les gens te proposent quand même des choses.
Oui.
Tu sors, tu t'amuses, t'as des interactions, t'as des amis, t'as quand même ce
oui.
que tu veux. Donc, t'es pas... ceux qui, pour moi, les belles filles drôles ou les beaux mecs drôles, chapeau, soit c'est des anciens moches, soit c'est des gens qui ont développé quelque chose alors qu'ils n'avaient pas besoin. Moi, quand
oui.
j'étais plus jeune, j'ai sauté une année quand j'étais au primaire.
Oui.
Et donc, je me suis retrouvé dans une classe qui donc, me détestait tous, forcément, parce que j'ai sauté la
oui.
classe dans le milieu de l'année. Et le professeur, à l'époque, avait eu le bon goût, c'était au primaire, de dire vous voyez le petit jeune qui va arriver? Eh bien, il a les examens de Noël que vous avez passés et vous avez tous battu. Donc,
oui, un peu, c'est embêtant.
Socialement, c'était...
difficile.
Ça n'a pas facilité mon entrée. Et donc, tu dis, merde, tout le monde me déteste à peu de choses près.
Ouais.
Et c'est ce que tu développes pour essayer de survivre.
Oui.
Et je pense que c'est peut-être de là que ça vient.
Peut-être, mais moi, je crois qu'il y a aussi autre chose. C'est que, en fait, les gens beaux, enfin, voilà... À partir du moment où tu commences à être obsédé par ton image, ton image, tu te laisses pas aller. Je veux dire, faire de l'humour, c'est pas avoir peur de d'avoir l'air laid. En fait, c'est de savoir se moquer de soi-même. Et j'ai l'impression que quand t'es beau et que tu veux que ce soit ça qui prime, tu ne peux pas te moquer de toi-même. Tu vois, j'avais fait les soirées métiers, là, j'avais fait une soirée, il y a pas de saut métier.
Ouais.
Voilà, et j'avais fait une soirée sur la mode. Et donc, les modeux qui étaient invités...
En gros, ça, c'est 5-6 invités qui viennent parler de leur métier. Comme ça, ceux qui se demandent ce qu'ils veulent faire dans la vie pouvaient
voilà.
venir voir et
absolument.
Avoir une idée.
Voilà, et qui était un concept où je me suis éclatée et je veux continuer l'année
j'ai
prochaine et tout.
Cela sur les médias, j'ai trouvé
voilà.
ça très chouette.
Voilà, et donc, j'avais fait une soirée sur la mode. Tu travailleras dans la mode, mon fils. Eh bien, les modeux, tu sentais qu'ils se laissaient... Au départ, c'était avec eux que j'ai eu le plus de difficultés parce qu'ils sont tellement obsédés par leur image, par le look, par avoir l'air de bazar machin, que c'est drôle, c'est être vulgaire, quoi, tu vois.
Ouais,
drôle,
ouais.
c'est tout à coup, tu vas t'en les dire si tu es drôle. Et donc, moi, je crois que c'est plutôt de cet ordre-là. Et c'est qu'une fille qui est très, très belle, si elle s'en fout, par exemple, je sais pas moi, Laurence, c'est, pour moi, c'est une très belle fille, mais quand elle était plus jeune, maintenant, je trouve qu'elle elle évolue vers autre chose, mais quand elle était plus jeune, elle s'en foutait vraiment complètement. C'est parce que maintenant, elle a 44 ans, donc elle doit gérer.
Tu trouves qu'elle a changé là-dessus, hein?
Non, elle n'a pas changé là-dessus, mais c'est parce que je crois que la vie, quand tu as 44 ans, tu commences à avoir ton rapport avec la séduction quand tu es une femme évolue. Tu n'es plus comme quand tu avais 20 ans, tu as l'impression que tu ne mourras jamais. Quand tu as 40 ans, tu te rends compte que tu es mortel et que tu as plus que 40, la moitié, enfin que tu as déjà fait la moitié de ta vie. Et donc, par rapport à la séduction et à la féminité, je trouve qu'on en prend un coup. Et moi, je sens que Laurence, et je comprends, mais à mort, elle a envie, et c'est une belle fille, et elle a envie encore elle a encore envie d'être encore plus belle qu'avant, tu vois.
Ouais.
Quand elle avait 20 ans, je trouvais qu'elle s'en foutait un peu plus de ça. Voilà, c'était ça.
C'est une ressource inépuisable quand on a 20 ans. Il te reste 1 million de jours.
Mais c'est ça, exactement. Tu vois, et tu te dis, tu t'en fous. Et si tu fais des grimaces et que t'as l'air moche et que tu ressembles à un gorille, tu t'en tapes, quoi, tu vois. Et elle avait ça dans sa tête, je trouve, fort. Et donc, il y a des filles comme ça où... ouais, je sais pas. Enfin, voilà. Mais maintenant, voilà, des comédiennes drôles et belles qui on connaît, je sais pas...
Dans les jeunes, j'avoue que moi, je connais très, 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 très peu le théâtre. Dans les humoristes filles qui ont beaucoup de succès.
Oui, c'est pas des canons, quoi.
Florence Foresti, Andrew Manoff.
Oui, c'est ça, oui, bon. Oui, oui, oui.
Et il y avait Valérie Le Mercier.
Oui.
Catherine Deneuve, des trucs un peu.
Oui, un peu oui, oui.
Mais très.
Oui, oui.
L'image est pas.
Non, c'est vrai que ça a l'air d'être compliqué, quand même.
Ça a toujours l'air d'être sous une épaisse couche de vernis, la comédie. Oui. Non, c'est vrai que les exemples sont pas. En même temps, il y a peut-être des gens qui sont derrière leur clavier qui vont m'envoyer 1 million de messages avec une longue liste. Tant mieux, j'en parlerai. Alors qu'aux États-Unis, c'est un tout petit peu différent. Il y a une espèce de vague. Moi, j'appelle ça des post-Bridget Jones.
Oui.
De filles. Il y en a une qui s'appelle. C'est quoi? C'est Amy Schumer. Oui. Elle a un super gag. Elle dit le problème. Elle dit j'ai 30, je crois, le 30-32. Mais elle dit le problème, c'est que j'ai pas évolué à la même vitesse que mes amis. Par exemple, quand une de mes amies m'appelle en disant je suis enceinte, le premier réflexe que j'ai, c'est oh mon Dieu, t'inquiète, je vais te conduire à la clinique, on va avorter ensemble, pas de panique, je m'occupe de tout. Et après ça, ils mettent 10 minutes à essayer de me faire comprendre que c'est voulu.
Qu'elle va le garder.
Qu'elles sont heureuses, que c'était. Ouais. Et donc, c'est ça. Et t'as plein de filles qui font aussi des blagues sur Twitter. Il y en a beaucoup qui font des blagues sur le fait qu'elles sont un peu seules, qu'elles ont douche, n'importe quoi. Et c'est souvent, c'est des super jolies filles qui ont un côté un peu. Je suis mignonne. Et je fais des blagues d'autodérision et assez trash aussi.
Oui, c'est ça. Oui, oui.
Donc, le mélange, moi, me fait... Une des premières qui a fait ça, c'est Sarah Silverman, qui avait un truc, avait présenté une fois un gala, et il y avait Jack Nicholson qui était dans l'assistance. Elle dit « Oh mon Dieu, Jack Nicholson est là! Oh Jack, si tu savais à quel point je t'aime! » C'est honnêtement, depuis le début de ma vie, je me rends compte que t'as été dans toutes mes actrices préférées.
Ah oui, c'est bien.
Et donc, c'est avec une tête d'ange un peu. Et donc,
mais quand j'avais 25 ans, j'ai fait un one-woman show qui s'appelait La vie merveilleuse de Sarah Epstein, qui était tiré d'un roman new-yorkais, ça s'appelait Sheila Levine is dead and living in New York, enfin je ne sais plus exactement. Et donc c'était l'histoire d'une jeune juive new-yorkaise qui décidait bizarre.
Il y avait quand même vachement bien caché leur jeu.
Voilà, tout à fait. Et l'histoire, c'était une jeune juive new-yorkaise qui décidait de se suicider parce qu'elle ne trouvait pas de mari. Et donc thème, c'était exactement ce dont tu parles. Donc, dans mon spectacle, je ne parlais que de ça. Et donc, ça se terminait par mon suicide qui ratait, évidemment, mais parce que je ne trouvais pas des mecs et que tous les mecs sur lesquels je tombais, c'était une espèce de naze, d'horrible, de laid. Enfin, voilà. Donc, ça me fait penser à ça.
Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Qu'est-ce qui te faisait rire il y a 20-25 ans? C'est l'humour juif new-yorkais, genre Woody Allen, ces
avant, Woody Allen, ces derniers temps, j'aime un peu moins, en fait. Mais j'étais fan de Seinfeld. Quand on parle de loin de chez nous, quoi, tu vois. Ouais. Mais quand j'étais petite, ça a commencé par Guy Bedos, Fernand. Enfin, tu vois, il y avait les locaux, quoi, ceux qui étaient tout près, quoi, Fernand Reynaud. Enfin, tout ça, c'était des comiques que mon père regardait et que je regardais avec lui, que j'aimais bien. Et puis voilà, et puis j'ai grandi. Mais je suis assez. J'ai des goûts assez larges, tu vois. Voilà, il y a des trucs que j'aime pas, il y a des trucs qui me font pas rire.
Qu'est-ce qu'il y a des trucs qui cartonnent, parce que je veux dire taper sur des gens qui ont pas de succès, c'est pas chouette, mais dans les trucs qui cartonnent et que tu dis putain, je capte pas pourquoi ça marche.
Ah oui.
On va parler d'un truc que j'ai vu dernièrement qui a l'air de super bien marcher et je vois pourquoi il marche. Les gars sont bons. C'est juste, moi, je sais pas. On dirait, c'est comme des fois, si mettons, on essaie de te montrer une image puis t'es aveugle.
Oui,
puis
tu comprends. Vois très bien. Oui.
J'ai et pas c'est le. Quoi? C'est les décaféinés.
Ah oui, moi, ça me fait pas rire.
Mais ils sont super doués, hein. C'est
oui.
Et ils doivent pas m'écouter, mais pour moi, je sais pas, j'ai l'impression de revoir du cabaret, de voir
ou bien, tu vois, genre café, le truc, les petites capsules.
Caméra café,
moi, ça ne me faisait pas rire.
C'est
bizarre, hein.
Ouais.
Ça me faisait pas rire.
Tu captais pourquoi ça marchait ou pas? Ou même pas où c'était?
Ça ne me faisait pas rire. Je regardais et je ne comprenais pas. Je respecte, mais je ne. Et bon, il y en a d'autres aujourd'hui qui ne me font pas rire. Je ne vais pas dire leur nom. Tu ne vas pas m'avoir là-dessus. Mais où je me dis, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, en fait. Voilà. Mais dans les trucs qui me faisaient. Le truc récent, mais je trouve que bref. C'était très, très, très drôle, très efficace, bien foutu. Il y a plein de trucs qui me font rire. Moi, en spectacle, en one-man show et tout ça, mon dernier gros coup de cœur, c'est Gaspard Proust.
Ouais.
Qui, lui, m'a fait... Quand j'ai vu son spectacle, ça m'a fait hurler de rire. Mais hurler de rire. Mmh. Ça, je crois que c'est le truc que j'ai le préféré ces dernières années en seul en scène, en fait. Voilà.
Et quand tu étais plus petite et que tu savais déjà... Est-ce que tu as une autre carrière avant le théâtre?
Non.
Ou tu savais déjà que c'était ça?
Non, je suis devenue comédienne parce que j'étais nulle à l'école, tu vois. Pour, ouais. C'est, oui, j'étais une très, très mauvaise élève, une tricheuse.
Pourtant, t'as pas l'air conne.
Non, mais j'étais peut-être pas conne, mais très mauvaise. Non, j'étais pas conne, mais très mauvaise, très immature. Je trichais.
Est-ce que tu crois que
j'ai triché depuis mes 8 ans, quoi.
Mais ça, c'est un signe d'intelligence, hein.
Peut-être, je sais pas.
Si t'as la capacité de mettre au point une tricherie...
Oui.
Il y a des super anecdotes de tricherie. Moi, quand j'étais au collège, si tu voulais aller aux toilettes, il fallait qu'il y ait un surveillant qui avait aux toilettes pour que tu triches. Mais il y avait un faux plafond. Donc, on pouvait cacher dans le faux plafond. Donc, la personne, ouvrait la porte des toilettes, voir si tout était clean. T'allais aux toilettes, checkais dans le plafond, prenais... Ah oui, moi, j'adorais... en fait, j'avais pas besoin de tricher, je réussissais bien à l'école, mais j'adorais mettre au point des techniques. Mettons, on écrivait avec un crayon de bois.
Oui, oui.
Ce qu'on faisait, mettons, il y avait des examens de mathématiques, un de nos potes était super bon en maths, et ça commençait toujours avec 10-15 choix de réponses. Donc, il écrivait sur un petit papier ses choix de réponses, il les mettait dans le... En fait, il faisait comme s'il taillait son crayon, cassait sa mine, donc devait ouvrir le truc.
D'accord, il y avait un petit papier.
En profitait pour glisser le petit papier, et après ça, toi, tu demandais le taille-crayon, et tu retrouvais le...
Fantastique.
Ah, des trucs, mais c'était... C'était un plaisir de développer. Un de mes amis, qui était un spécialiste pour ça, avait trouvé une série de techniques. Des fois, le plus débile, t'avais droit à une feuille avec des notes, c'est un examen de chimie, je crois.
Ouais.
Et le gars, il est allé à la photocopieuse et il a fait réduire donc chaque page à 1/32e.
Ouais.
Et donc, a photocopié tout le clavier. Ça a acheté une loupe.
Ah oui!
Et c'était techniquement légal,
ouais,
quoi.
Ouais, ouais.
Et c'est des. En fait, ça ferait des bonnes séquences. Ouh, ça ferait des bons programmes courts, ça serait.
Oui, c'est vrai.
Ça donnerait des bonnes idées. Une fille aussi que je connaissais, j'ai entendu parler, celle-là, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais avait mis à l'intérieur de sa. Mettons la face arrière de sa jupe.
Oui.
Donc voilà ce qui couvre ses fesses. Avait mis quelque chose dans la jupe, donc face arrière, donc quand elle s'assoyait, relevait un tout petit peu la jupe.
Oui, oui, ça, oui, c'est regarder. Classique, ça.
Mais ce que je trouve, le génie de cette technique-là, c'est qu'il n'y a aucun prof qui peut dire « t'as mis quelque chose dans ta jupe ».
Oui.
Parce que sinon...
Personne ne va oser,
fait quand même un tout petit peu pédophile.
Oui, oui, c'est vrai.
Et c'est embêtant.
Oui, c'est embêtant.
Et ça, c'était un truc. Ouais. Donc, tricher beaucoup. Tu te souviens d'une technique ou c'était ça?
Ah, mais moi, ma technique, elle a été de mes 8 ans, ce qui est jeune, 8 ans, je ne sais pas si tu te rends compte. Je crois que tu ne te rends pas compte, parce que 8 ans, c'est très jeune. Et donc, j'ai commencé à 8 ans, j'ai terminé à 18 ans, 19 ans, parce que j'ai triché aussi à mon permis de conduire théorique. Et donc, j'ai commencé à 8 ans, et ma technique était assez simple. C'est que je crois que j'ai vraiment développé, j'ai réussi à me faire aimer des très bons élèves. Et donc, je pouvais m'asseoir à côté de qui je voulais, et donc je trichais sur la personne qui était à côté de moi. Et personne ne me dit, et j'étais comme ça, je mettais ma main devant mes yeux, et je trichais, et je trichais, et je trichais. Un jour, j'ai un prof qui m'a dit, Nathalie, tous les profs savent que tu triches. J'ai fait, hein ? J'ai pas nié, mais j'ai pas acquiescé non plus. On est passé à autre chose, et puis voilà. Mais je dis, j'ai triché, et je te dis, j'ai triché à mon permis de conduire théorique, quoi.
Et comment on fait?
Parce qu'en fait, à l'époque, tu as le permis de conduire, on était tous dans une même salle, et il y avait 3 choix. Tu vois, on te dit, on te posait une question A, B, C. Et j'avais une copine qui le passait en même temps que moi, qui connaissait très bien. Elle était devant moi. Et donc, genre, A, elle se grattait la tête. B, elle se tirait l'oreille, n'importe quoi.
Ouais.
Et C, elle s'étirait. Et donc, on a fait tout notre examen comme ça, où moi, je suivais ce qu'elle me disait. Et je notais, j'ai réussi comme ça. Donc, je me dis, non, mais voilà.
Tricher à l'examen pratique, par contre.
C'est plus difficile.
En fait, j'avais une bonne copine qui conduisait juste devant moi et je mimais ses manœuvres. Moins évident. Et donc, t'as arrêté l'école après le secondaire?
Oui. Et puis, j'ai fait le conservatoire. Okay. J'ai étudié où j'ai raté. J'ai eu un parcours un peu chaotique. J'ai fait le conservatoire de Bruxelles et au bout de 3 ans, on m'a arrêté. Ça n'allait pas. J'ai été engagée...
Ça donne quoi comme conversation, ça? Parce que si c'est ce que tu voulais faire, tu savais que tu n'étais pas très doué à l'école, tu arrives au conservatoire, c'est ce que tu veux faire. Après 3 ans qu'on t'a arrêté?
On m'a arrêté au bout de 3 ans. Non, j'ai d'abord raté l'examen d'entrée à l'INSAS, puis j'ai raté l'examen d'entrée au conservatoire. J'ai été prise. Au bout de 3 ans, on m'a jeté du conservatoire. J'ai fait la Ligue d'impro, on est venu me chercher à la Ligue d'impro, on m'a jeté de la Ligue d'impro.
Ça fait jeter de la Ligue d'impro?
À l'époque, c'était une méthode, une technique où ils purgeaient, ils appelaient ça la purge, c'était horrible. Et donc tous les participants de la Ligue d'impro, on recevait tous une liste de tous les noms de tout le monde et on mettait à côté, en fin d'année en juin, on mettait oui ou non.
Sérieux ?
Et donc tu te faisais jeter par tes copains en fait.
Il fallait mettre une petite étoile aussi ou...
Non, on te disait oui ou non. Et tu te faisais jeter par tes collègues, quoi, tes copains. Et donc si tu avais un certain pourcentage, au-delà je crois de 11% de gens qui disaient non, tu étais purgé, ils appelaient ça, c'était horrible.
Donc, c'est comme l'armée de César, quoi, quand il décimait ses armées. Quoi.
Voilà, exactement, tout à fait. Et donc voilà, et donc je me suis fait... jeter de plein de trucs et en fait très et je bizarre
pas, je pose ça pour faire chier mais en fait tu comprends pas vite quoi, t'es jeté donc de
oui.
pas toutes les
non
et t'as quand même continué.
Non, je crois que en moi il y avait ça, en fait ça stimulait chez moi de la ça a toujours stimulé la créativité.
Ouais, ça t'a pas déprimé, parce que blague à part, ça t'a pas déprimé?
Ça c'est, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup, mais je crois que ça a touché moi un truc où au lieu que ça me fasse m'écrouler, ça me stimule et je deviens hyper créative quand j'ai un problème comme ça. Quand ça m'arrive plus, mais ça m'arrive tout à coup d'avoir un souci, quelqu'un qui me lâche, enfin n'importe quoi. Ça stimule chez moi quelque chose. Et je deviens hyper créative.
Ça
je sais pas pourquoi.
Mais ça vient de... C'est ma sœur qui était prof au primaire. Ouais. Je crois que c'est elle qui m'avait dit ça. C'est un peu la métaphore du de l'animal sauvage, en fait. Dans notre instinct, ouais. Donné, si tu vois le loup arriver, il y a un moment donné où tu vas te mettre à courir.
Ouais.
Et il y en a qui attendent que le loup soit dans la caverne. Il y en a d'autres quand ils le voient déjà à l'horizon. Mais il y a une espèce de... Pouf, OK, maintenant, action.
Au combat, mais c'est ça.
Tous tes sens deviennent éveillés.
Voilà.
Et c'est là qu'il faut
que
tu te... Et je pense que c'est triste, mais si tu veux réussir, en humour, de ce que j'ai cru comprendre en lisant, par regardant tout mon tour, une capacité à écrire et à travailler beaucoup. Si t'écris une blague toutes les trois semaines, ben t'es, à moins que ça soit la blague de l'année chaque fois, t'es mort. La capacité à survivre quand on te tape sur la gueule, parce que quand tu fais de l'humour, par définition, le trois quarts des gens vont trouver que ce que tu fais, c'est naze.
Oui.
Donc ça, il faut que tu sois capable de survivre à ça. Et justement, le côté de quand c'est la merde, qu'est-ce que tu fais?
Oui.
Si tu vas dans ton lit puis tu dors, ben
c'est foutu,
c'est fini.
Quoi. T'as qu'à crever, quoi, tu vois. T'as qu'à mourir et puis tout. Mais si tu veux pas mourir et que tu veux pas crever et que tu aimes la vie, ben tu peux pas t'écrouler. Au contraire, tu dois réagir. Quoi.
En fait, c'est la même chose que Koh-Lanta finalement. Le point, c'est qu'on est un certain nombre. Maintenant, on va dire on est 100 qui veulent le faire, puis il y a 10 personnes qui pourront le faire.
Oui.
Et donc, il faut qu'il y en ait 90 qui crèvent à côté de toi. Si
et tu sais, dans ma classe au conservatoire, on était, je sais pas, une quinzaine. Sur 15, je suis la seule. Non, on est peut-être 3-4 à encore travailler aujourd'hui, mais je suis la seule qui a été si loin, ou qui a eu une espèce de reconnaissance, une mini-reconnaissance. Hein, on est quand même Bruxelles, quoi. Mais donc voilà, mais pour te dire, et j'étais la moins bonne élève, enfin, bonne, qu'est-ce que ça veut dire, mais enfin bon. Voilà, donc, chez moi, ça a été, ça m'a fait du bien, les échecs m'ont fait du bien. Et j'espère que je vais arriver un jour à communiquer ça à mes fils et leur dire, n'ayez pas peur de l'échec, et que l'échec soit vraiment un tremplin. Plein, quoi, soit un moteur et pas un truc où tu t'écroules, quoi.
Moi, j'ai pas d'enfant et, tu sais, en tout cas, pas que je sache. Et il me semble que ce serait la première chose que je voudrais qu'ils expérimentent. Moi, quand je vois des enfants dans la rue et il y a ça, j'ai vu ça quelques fois, maintenant, il existe des laisses pour enfants. Je sais pas si t'as déjà vu.
Oui, pour les petits, pour que. Oui, horrible.
Oh, mais
affreux.
Ça, c'est. Comment faire dire à ton enfant déjà. Un, je suis pas capable de te contrôler.
Oui.
Deux, le monde va te manger puis tu vas mourir.
Oui.
C'est comme quand je vois maintenant des enfants qui partent en excursion scolaire, les petits, ils ont une espèce de petite veste fluo. Tu dis, on est à 6 mois qu'ils soient entourés dans de la ouate avec du papier à bulles puis des casques. Quoi. J'ai pas d'enfants, je suis pas spécialiste. Mais il me semble que le premier truc que je voudrais qu'ils se fassent, c'est se planter.
Oui, oui.
Parce que il faut que tu saches vite que ça fait pas mal longtemps.
Non. Et que tu rebondis et que tout à fait. Ouais. Moi j'ai un fils qui
quel âge ses enfants?
J'ai un garçon qui va avoir 17 ans et l'autre qui a 13 ans. Et celui de 17 ans, il a eu des moments un peu compliqués au niveau scolaire, il se fait renvoyer d'une école et tout ça. Et donc il a un parcours un peu chaotique et là aujourd'hui, je trouve que ça y est, quoi. Tu vois, c'est comme s'il s'est appuyé là-dessus. Il est en train de construire. Enfin, je touche du bois. Je ne sais pas ce que va être sa vie. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais je sens que ça a été un moteur pour lui. Donc, voilà.
Ça fait 17 ans que tu as le théâtre.
Oui.
Ça fait 17 ans que tu passes tous tes soirs en dehors de la maison?
Non, pas tous les soirs. Au théâtre où je joue, mais je joue moins qu'avant, où je suis là aux premières et voilà. Et puis je viens deux soirs par semaine.
Ah ok, donc t'as encore un peu une vie.
Voilà, et puis on a beaucoup travaillé en journée au théâtre. Le théâtre ne vit pas que le soir, tu peux imaginer. Donc ouais. Je travaille et la journée et parfois le soir, mais bon, ça va.
Et pourquoi tu joues moins?
Je crois que je me suis un petit peu calmée narcissiquement et que je suis un peu plus comblée et que j'ai moins besoin de me montrer. j'ai moins besoin d'être sur scène. Et puis, je reviens toujours avec l'âge, mais je dis, c'est parce que je ne me cache pas et je m'invente pas des histoires. Il y a aussi que, au niveau des rôles, tu vois, l'autre fois, on m'a proposé un rôle qui était super dans une super pièce. Et je disais à la personne qui me l'a proposé, je dis, mais écoute, voilà, ça ne peut pas être pour moi. Il aurait fallu que tu me l'aurais dit à 40 ans ou à 35 ans, j'aurais fait des bonds de joie. Mais là, c'est juste trop tard, je trouve. Ouais. Voilà. Et donc, je crois que quand t'es une femme, les rôles qui sont pour toi à 50 ans, c'est plus compliqué, en fait. Faut qu'on écrive pour toi, en fait. Voilà.
Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière où tu voulais aller en France, tu voulais aller au cinéma, ouais. Tu voulais aller... j'aimerais ça que tu me racontes comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, ah tiens, ça arrivera peut-être pas, ou tiens, je m'en fous, ou tu l'as testé et ça s'est pas passé? Parce que j'imagine que, Mané, ça se met, tu sors le théâtre marche bien, tu fais des pièces, tu joues, t'as un ouais. momentum. C'est quoi le moment où tu sentais que t'avais le plus le vent en poupe et jusqu'où tu voulais aller à ce moment-là?
Mais j'ai eu envie de tout ça, de tout ce dont tu parles, quand j'avais pas le vent en poupe.
Ah ouais?
Oui. Et à la limite, je me sens plus aujourd'hui reconnue ou plus avoir le vent. Enfin, le vent, parce que ça...
De quoi on parle
aussi, enfin, tu vois, mais...
Oui, mais tout bon, est relatif.
Voilà, tout est relatif.
Il n'y a pas de millionnaire autour de la table.
Non.
Mais tu ne te lèves pas le 12 du mois en disant « Ouf, c'est quand est-ce le premier du mois que je puisse manger?
Non.
Et qu'est-ce que je vais faire le mois prochain?
Non.
Et j'ai personne dans mon théâtre. »
Mais voilà. Donc, je suis dans une période de ma vie où je gagne ma vie. Mon théâtre marche depuis le début de la saison, depuis le 1er septembre jusqu'au moment où je te parle, nous sommes complets tous les soirs, donc c'est incroyable.
Alors c'est la première fois en...
Non, on a quand même souvent des bonnes années, mais une année comme ça où tous les soirs sont complets, ça j'ai quand même rarement eu, quoi. Donc voilà, alors qu'on est quand même dans une période difficile, on ouais. le dit, mais je crois que les gens ont envie encore plus de s'amuser, de se divertir, et que voilà, à choisir entre deux spectacles, peut-être que voilà, ils choisissent un truc qui va les amuser, et puis là, voilà. Et puis on est assez, avec les années, je crois qu'on a hyper bien construit toute l'image du théâtre et de la communication, donc le tout fait une espèce d'harmonie qui fait que notre théâtre marche, quoi. Voilà. J'ai une bonne équipe. Je suis pas toute seule. On est une très, très bonne équipe. Donc, voilà. Et donc, j'ai l'impression aujourd'hui que je suis, que c'est bien, quoi. Tu vois, que je suis en harmonie, que je suis pas au top de ce que je peux faire, mais je...
Équilibre.
Ouais, c'est bien. Et à la limite, quand j'avais 25 ans, je rêvais de faire du cinéma. J'ai fait un petit peu de cinéma. J'ai joué dans une pièce à Paris en me disant, tiens, après, je vais rester à Paris parce que je voudrais être comédienne à Paris. Je l'ai pas fait. Je suis revenue parce que je crois que je suis un peu... J'ai un côté... Mes amis sont importants, ma famille, enfin, tu vois, donc...
Mais t'as l'air d'être très clin. Tu vois, t'aimes bien Bruxelles, le village,
oui.
ton groupe,
oui,
y a des personnes
vrai.
qui sont oui. autour de toi. Et ça, c'est un truc, quand t'étais plus jeune, c'était comme ça dans ta famille
oui.
aussi déjà?
Oui, puis mes amis ont toujours été très importants. Ça a une place importante dans ma vie, mes amis, mes copains, ma famille. Oui, c'est vrai que c'est important. Et c'est important qu'au Théâtre de la Toison d'Or, j'ai un clan. Ça me rassure, ça me fait du bien. Quand il y a quelqu'un qui part, qui quitte le clan, ça me déstabilise un peu. J'aime bien quand mon clan reste uni, quoi. Oui.
J'aimerais ça que tu raconte deux, trois trucs. Donc, Laurence Bibeau, ça fait maintenant un peu plus ou moins oui. une vingtaine d'années que vous êtes ensemble.
Oui.
Juste le fait de l'évoquer, je vois que tu souris.
Oui,
vous avez passé probablement du temps à répéter, à faire des trucs.
Oui.
Il y a dû avoir des soirs où Laurence, quand je l'avais rencontrée, m'avait dit que quand elle était à Paris,
oui.
elle m'était dit, je vais pas changer mon matériel et tant pis si ça passe pas.
Oui.
Elle dit, donc ça n'a pas passé.
Oui.
Elle dit, je me souviens un soir, je finis mon spectacle, je suis dans le noir et j'entends rien. Elle dit, donc moi-même sur scène, j'ai dû démarrer les...
oui, je sais. Elle a envoyé la claque elle-même, la pauvre, secours. Quoi.
Et
oui,
ça, j'ai sais. Trouvé ça...
Oui.
J'imagine, donc là, ça se passe super bien et tout. Il y a dû avoir des fois où tu te dis, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe au secours.
Oui.
En 17 ans de théâtre, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas eu des soirées, il n'y a pas eu deux, trois soirées.
Bien sûr, on a fait des bits, mais en général, mais ça dépend. Tu vois, quand c'est un spectacle qui marche et qui fonctionne, et qu'il y a un soir où tu te prends un bit, ça arrive, parce qu'on sait que d'un soir à l'autre, le public est différent, ou toi, tu es différent. Si tu as plusieurs, moi, ça, en général, ça me fait rire. Être face à personne qui rit, ça me fait rire. Moi, j'ai joué une pièce de Charlie de Gaulle, moi, qui me faisait hurler de rire, qui s'appelait Zaventem, moi non plus, il y a 3-4 ans. On était les quatre comédiens, on adorait faire ça, mais on avait des fous rires, rien que le non-rire dans la salle, tu vois. On avait envie de se regarder, de se marrer, parce qu'on disait, on est en train de faire des dingueries sur la scène, et personne ne rit, les gens, tu vois vraiment le grand point d'interrogation dans les yeux. Bon, moi, ça me fait marrer, en fait.
Ah oui, à la limite, c'est ça, c'est même pas qu'ils rigolent, qui ça les fait pas rire, c'est qu'ils captent pas.
Ils comprennent pas, c'est quoi.
Ça. Mais ça, en fait, il y a des gars que j'ai laissés dans mon spectacle, c'est horrible, mais je sais qu'ils marchent pas, tu vois, j'ai déjà fait 20 fois, ils marchent pas, mais moi, je suis trop chouette, et c'est le même principe. Quand je le fais, puis ça rigole pas, je ris tout seul.
Putain,
c'est quand est-ce que tu vas comprendre, pauvre con, ce gars-là marche pas. Un jour, c'est comme si genre 20 fois il va pas marcher, puis d'un coup genre la 824e fois ça va marcher. Oui. Tu sais que ça va pas arriver, mais je le garde quand même. Donc c'est pas la stratégie de l'année. Et des soirs où vous êtes retrouvé avec trois personnes dans la foule, c'est arrivé?
À la Toison d'Or, non. Je
sérieux?
C'est affreux de dire ça, mais non, jamais. Enfin, c'est pas affreux, c'est génial, mais c'est
non, au contraire,
pas,
ouais.
C'est pas du tout prétentieux. Ça ne nous est pas arrivé, ou alors peut-être la première année, il y a 17 ans, tu vois. Mais sinon, non. Mais j'ai fait, quand j'étais plus jeune, une pièce que j'avais produite moi-même avec des copains. Et là, on s'est pris un bide total avec effectivement 10 personnes dans la salle. Après, les copains, ils se sont tirés. C'est moi qui ai dû payer pendant un an, qui ai dû rembourser toute l'approche de jus.
Ok, donc vous avez tout financé.
Ensemble, on avait créé une ASBL. C'était mon ASBL, mais comme elle existait. Ils se sont tous tirés. Et donc, ils ne sont plus mes amis depuis. Tu peux imaginer. Je ne sais pas. Je n'ai plus vraiment envie de les voir. Et pendant un an, et à l'époque, tu vois, ça, c'était pas grand-chose. Mais pour moi, c'était beaucoup parce que j'avais rien. Tu vois, donc voilà. Donc, je n'ai plus connu ça depuis très, très longtemps.
Ceci étant dit, faire une ASBL qui soit à ton nom où vous êtes 10 dedans, c'était pas la décision business
non,
de l'année.
On est bien d'accord. On est bien d'accord. Aujourd'hui, je serais probablement conseillée autrement, c'est vrai.
Ben, oui, avec un entourage qui a fait...
Oui, les Solvay Men et Women qui sont autour de moi, ça devrait aller.
D'après moi, ils te conseilleraient ça 1 sur 10 maximum.
Oui, je crois aussi, oui.
Maximum. Et est-ce que... J'imagine que, bon, t'es une pourvoyeuse, t'es un diffuseur, il doit y avoir des gens qui rêvent de faire carrière, qui viennent te voir.
Oui.
Et tu as dû recevoir de temps en temps, j'imagine, aussi des propositions de pièces. On doit t'envoyer des trucs.
Oui.
Et là, il doit avoir des... je veux pas que tu nommes de personnes, bien évidemment,
non.
Parce que c'est pas classe. On n'est pas obligé de nommer des trucs trop pour que...
Mais
est-ce que, des fois, des soirs où tu es avec des copines au bout de 3-4 verres, vous cherchez à vous marrer, tu vas ressortir...
Non, j'ai jamais fait ça, Dan.
Sérieux?
Je te jure. Je ne l'ai jamais fait. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai jamais fait.
Ah, tiens, les micros sont maintenant éteints.
Non.
Honnêtement.
Je te le jure que je n'ai jamais.
Parce que j'y ai pas pensé.
Non, parce que j'y ai pas pensé. J'ai peut-être déjà. Non, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Ça m'est déjà arrivé de lire ensemble une lettre qu'on avait reçue au théâtre, tu vois, et de se marier sur une lettre.
T'as reçu des lettres de plainte?
De plainte.
De quoi tu peux te plaindre au théâtre? En télé, je peux comprendre parce que beaucoup regardent la télé par défaut. Zap, tombe sur quelque chose. Mais au théâtre, à partir du moment. Un de mes humoristes préférés, c'est un Québécois qui s'appelle Mike Ward, qui est super trash.
Oui.
Son spectacle s'appelle Pedophile Jokes and Death Threats.
Oui, d'accord.
Et il commence son spectacle en disant la seule raison pourquoi je l'ai appelé Pedophile Jokes and Death Threats, c'est que s'il y a une blague de grand-mère qui vous choque tout à l'heure, en général, les gens vont se sentir beaucoup trop cons pour dire j'ai acheté un billet pour le spectacle blague de pédophile, il y a une blague de belle-mère que j'ai pas aimée. Il dit c'est un filtre pour moi pour avoir la paix après
c'est
le spectacle.
Ça. Oui, je comprends.
Donc, quand tu payes pour aller voir quelque chose, normalement, tu t'es informé un minimum.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais, par exemple, l'année passée, on a eu une pièce, cocaïne, bricolage et je sais pas quoi, là, qui était assez trash et assez vulgaire. Et donc, peut-être qu'on avait mal, nous, communiqué sur le propos de la pièce. Mais donc, il y a des gens qui sont venus. On a reçu plein de lettres de gens qui étaient mécontents. Vraiment des gens qui étaient fâchés, quoi. Parce qu'ils trouvaient ça vulgaire, grossier. Enfin, voilà. Ça arrive très rarement, hein, mais voilà.
Et qu'est-ce que vous faites avec ce courrier-là? Parce que moi, c'est déjà arrivé.
Je réponds, hein.
Tu réponds?
À ceux-là, oui. Les gens mécontents, je réponds. Ouais, non, tu sais ce que j'ai eu, ça m'a bien fait rire. Ça m'a bien fait rire. C'était pour la soirée qu'on a fait sur égalité, virilité, féminité, tu vois, sur le truc.
En gros, c'était une soirée, il y avait 8.
Il y avait une, oui, c'est ça, une dizaine d'humoristes.
8 humoristes qui venaient faire des petits sketchs chacun sur le même thème, donc que tu viens de nommer.
Voilà, qui était l'égalité homme-femme. Et
pour ou contre.
Pour ou contre, oui, ou rien, tu vois, voilà. Et donc, ou rien. Et alors, on avait fait un. Et moi. Voilà. Et donc, je reçois une lettre d'une dame qui apparemment travaille à la communauté française et qui m'envoie un mail en me disant « Je vois que vous faites les soirées égalité homme-femme, mais je vois aussi que vous faites toute une série de soirées. Tu travailleras dans la mode, mon fils. Tu feras l'université, mon fils. Pourquoi mon fils ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà là de la discrimination ? Sans doute... ça vous a échappé, donc elle me prend en plus pour une conne, donc sans doute ça vous a échappé, et alors elle met entre guillemets « chasser le naturel, il revient en galop », enfin, un truc vraiment, et donc là je lui ai répondu, j'ai dit « qu'est-ce qu'on fait quand on n'a que des fils ? Est-ce que je dois vanter que j'ai une fille ?» Voilà, donc voilà. Ensuite, peut-être que ça fait référence à un petit peu à ce délicieux humour juif, voilà. Ouais. Je dis, et je suis absolument consciente de ce que j'ai écrit. Et puis j'ai aussi terminé par une petite citation, et voilà, je l'ai envoyé péter, quoi. Donc voilà, donc tu vois, on a quand même parfois affaire à des gens un peu des emmerdeurs, quoi. Tu vois, des gens que tu dis, mais ils ont que ça à faire, quoi, à t'écrire des lettres.
Moi, ce que j'ai jamais compris, je fais souvent des blagues, donc je suis en Belgique, je fais souvent des blagues sur la Belgique et il y a des fois les gens qui me demandent « Ah, t'as pas peur que les gens le prennent mal ?» Mettons, j'étais à Mons dernièrement et j'ai pas commencé, j'ai fini comme ça, je l'ai commencé en disant « En tout cas, ça me fait vachement plaisir d'être ici ce soir. » Enfin, je veux dire, sur scène, pas à Mons, faut pas déconner. Mais tu dis, c'est con d'hésiter de le faire parce que, je veux dire, dans quel monde est-ce que, si tu penses que les gens vont être choqués, c'est que tu pars du principe que les gens qui ont payé pour voir un spectacle d'humour vont pas capter que ce que tu dis, c'est une blague.
Oui, oui.
Mais si c'est le cas, c'est récupérable. Je peux, ça, tu ne vas pas insulter les gens.
Mais il faut déjà être fort pour le faire. Il faut déjà, je trouve, avoir un personnage pour le faire. Tu vois, pour que ce soit très drôle ou que l'humour passe, il faut déjà exister, je trouve, en tant que personne, en fait.
Oui, mais c'est la même chose pour n'importe quel type d'humour, finalement.
Oui, oui.
Pour faire, il y a des trucs que certaines personnes vont faire qui sont extrêmement drôles. Ben, mettons, prenons Laurence Bibault quand elle fait son personnage de Miss Belgique, pour prendre un vieil exemple. Sa manière dont elle va le jouer, ça passe super bien. Probablement, moi, si je me mets une perruque et je fais la même chose, le même texte, ça va être assez nul.
Peut-être, mais c'est parce que Laurence, en l'occurrence, c'est une fille qui est tellement douée pour faire plein de personnages différents. Donc ça, c'est vraiment son truc total. Mais par exemple, revenons sur Gaspard Proust, qui, lui, a un personnage... Son personnage, c'est un type qui est là et qui râle et qui fait qu'il n'y a pas d'énergie et qui, genre, je ne vais pas faire d'effort, quoi. Je ne vais pas chercher à vous plaire. Et lui, du coup, il peut dire, mais toutes les horreurs possibles et imaginables. Je ne suis pas certaine que dites par quelqu'un qui est jovial, qui est là, je ne suis pas certaine que... Voilà, je trouve que c'est cohérent.
Le fond et la forme doivent marcher ensemble.
Oui, je trouve.
Oui. Ah voilà. Oui, c'est comme quand tu fais de l'humour d'autodépréciation, si tu te marres trop, c'est bizarre.
Ben non, ça va pas, ça.
Mais on dit ça, mais en même temps, c'est vrai que nous, on les voit, ces gens-là, quand ils réussissent, mais j'ai croisé des Suisses qui avaient, dans un festival, qui avaient commencé avec lui sur des scènes ouvertes.
Oui.
Et ils disaient que ses débuts, ça...
Cata, quoi. Mais oui, mais je veux bien croire.
Parce que ça arrive dans une soirée scène ouverte, tout le monde qui vient faire. L'autre jour, j'étais avec ma copine, puis elle me dit, je vais aller me préparer. Donc, deux semaines après, des trucs comme ça, après ça, t'as un gars qui débarque et puis qui lâche 3-4 horribles punchlines comme ça.
Oui.
Tu te demandes d'où ça vient. Mais ces gens-là, quand ils trouvent leur public, par contre, c'est génial parce que ceux qui l'aiment bien, lui, il n'y en a pas 22.
Enfin,
bref. Parmi les gens qui écoutent le podcast, il y en a plusieurs qui sont des humoristes ou des auteurs, des choses comme ça. Toi, tu as un théâtre.
Oui.
Est-ce qu'il y a un endroit où s'il y en a qui ont des idées de pièces ou même des trucs qui sont écrits et qui aimeraient t'envoyer, est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent le faire?
Au théâtre de la Toison d'Or. Ça, c'est au théâtre de la Toison d'Or, 396 Galerie de la Toison d'Or. Et il faut savoir que moi, je suis beaucoup plus sensible à ce qu'on vient... On vient de me parler d'une idée qu'on a, plutôt que d'un texte. Après le texte, je peux le voir, je peux le lire après. Mais moi, ce qui m'intéresse au départ, c'est l'idée. C'est venir vers moi en me disant, écoute, voilà, j'ai pensé à un truc et c'est ça. Et je suis une instinctive, je ne suis pas une fille... je n'ai pas fait des grandes études, je ne suis pas très rationnelle.
Les études que tu as faites, ça ne s'est pas super bien passé.
Bien passé. Donc, je suis une vraie instinctive. Et mes choix, je les fais comme ça, en fait.
Donc, si on veut, mettons, on se dit, ah, j'ai une bonne idée de piège, j'aimerais ça, jouer quelque part, je ne sais pas l'endroit. Tu votes pour
un concept, tu vois. vois. Ouais. Et voilà. Et moi, je me dis, OK, cette idée, ce concept, avec ces gens-là, je le sens bien. On continue, on va un peu plus loin.
Et puis, moi qui reçois de temps en temps aussi des. Je me rends compte d'un détail. Sur 10, 15 personnes qui m'envoient un email en disant j'ai une idée.
Oui.
Il y en a entre 0 et 1 quand tu leur envoies un email en disant ben, OK, ben, fais tel truc, puis monte-moi après.
Oui. Ils le font pas.
Quasiment. Et donc, il faut jamais sous-estimer la valeur de la paire de coronesses d'aller voir la personne en live.
C'est vrai.
Parce que tu dois... des gens qui viennent te voir en live, ils ne doivent pas en avoir 5 par année.
Non, mais c'est vrai que ceux-là, c'est quand même. Bon, il y a aussi, moi, je ne rencontre pas tout le monde non plus. Tu vois, il y a un.
Alors,
moment
on m'a dit que
tu
étais une fille facile.
Tu fais bien l'accent en belge, je dis.
Je vais arrêter parce qu'habituellement, on me dit arrête, tu insultes tout un pays. Donc, si ça a bien marché maintenant, j'arrête et je prends ma retraite de l'accent belge.
Alors, moi, je vais essayer de faire l'accent québécois. Ça va être très, très mauvais. Mais donc voilà, donc je ne vois pas tout le monde et donc il faut
se reçoit et déplace.
Voilà, mais un jour il y a un gars, c'était excellent, qui m'a envoyé une lettre, mais fantastique, fantastique, comme une lettre d'amour, tu vois, mais avec beaucoup d'humour, ou mais trop exagéré. Et en fait, après, j'ai regretté, je ne lui ai pas répondu.
Ouais.
Et j'ai retrouvé ce type un jour dans une interview, parce qu'il était chroniqueur dans une émission quelque part. Il me disait, c'est moi qui vous avais envoyé cette lettre. Je dis, oh, je suis désolée, cette lettre était fantastique, extraordinaire. Donc effectivement, je trouve que les gens qui ont du culot et qui viennent me voir ou qui m'envoient un mail, mais m'envoyer un truc classique et tout ça, ça n'aura aucun impact sur moi. Il faut vraiment m'accrocher avec un truc un peu particulier, quoi.
Et est-ce qu'un jour on pourrait espérer que tu ressortes de tes tiroirs quelques manuscrits
et qu'on lise ensemble un soir au coin du feu et qu'on rit,
ou même tu sais que les premiers comedy clubs, il y avait un line-up dans le jour pour pouvoir voir si tu pouvais, les gens faisaient la file, ils venaient tester, puis le gars ou la fille du comedy club choisissait si tu peux passer ce soir. Et à un moment donné, c'était il y avait tellement de gens qui venaient et ils se sont dit, putain, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'ils sont mis à ouvrir un soir de plus, le lundi soir.
Ouais.
Et le lundi soir, c'était les auditions en live.
Ah oui, c'est pas mal. Et les gens venaient quoi, lire la pièce qu'ils avaient écrite.
Mais là, pour le coup, c'était du stand-up. Donc, ils venaient faire un petit truc. Mais c'est devenu une des soirées les plus populaires.
Ah oui. Ouais, ça m'étonne pas.
Moi, si, honnêtement, où tu fais des soirées audition.
C'est pas mal.
Le lundi soir, soirée audition. Que ce soit des gens qui viennent lire un texte que tu leur donnes le jour même.
Quelle cruauté. C'est du reality show, quoi. C'est un truc. Parce qu'il y a des trucs très. Ça va être très mauvais. Il va y avoir des trucs mauvaisissimes.
Ouais, mais si t'es. Moi, j'aime pas la. Genre, moi, exemple, la nouvelle star, quand ils nous montrent les mauvais, moi, ça me fait pas rire. Ça, c'est
non, moi, ça me fait pas rire non plus.
Parce que. Je trouve ça un peu. En fait, je trouve ça triste.
Ça me fait un peu de la peine. Oui.
Mais si tu sais que tu n'as aucune chance de, justement d'aller te montrer nulle part, ça m'intéresserait quand même de voir ces trucs-là. Si tu le mets dans une situation où c'est pas de sa faute, c'est les ridicules, et qu'elle arrive à en faire quelque chose, tu dis, par définition, ça va être ridicule, mais bon, ce que tu es capable de faire, ben, c'est les ridicules, tu es pas mal parce que c'était les conditions.
C'est pas mal, je trouve.
Et si la personne s'en sort, tu te dis, shit, t'as vu, t'es arrivé dans des conditions.
C'est pas mal.
T'sais, nous, donc, le tournoi qu'on a fait au Comédie. D'ailleurs, on va faire une nouvelle édition. S'il y en a que ça intéresse, restez Facebook, sur mon Facebook, donc Dan J. Gagnon, Facebook. On va relancer ça bientôt, fin février, si tout se passe bien.
Ouais, c'est bien.
2 fois 3 minutes, les deux personnes sont sur la scène en même temps. Quand il y en a qui fait son truc, l'autre reste sur la scène.
Ouais.
T'avais des gens qui pouvaient voter par Twitter et il y avait l'écran devant eux, donc tu vois les réactions des gens devant toi.
Une battle.
Au bout, et c'est vraiment comme un truc de boxe. Au bout de 3 minutes, t'as une sirène de bateau, donc t'es fini, pas fini, c'est terminé. T'as les jurys qui donnent leurs commentaires en live. T'es sur le petit podium donc, de la scène au Comedy Club devant.
Ouais.
Donc c'est toutes les conditions les plus dures. Mais on s'était dit avec Gilles en créant le concept. Ceux qui commencent comme ça, après, ils vont pouvoir faire n'importe quoi,
mais
n'importe
quel.
Ils vont aller jouer dans un resto.
Mais oui, moi, je trouve ça génial.
Au lieu de commencer dans un petit cocon, justement, avec une fucking laisse puis un chandail fluo, comme si t'étais un enfant qui était en excursion scolaire.
Oui.
Après ça, cet enfant-là, il va faire du vélo, il va avoir 12 petites roues ici autour du vélo.
Et si tu commences comme ça, t'es prêt. C'est vrai. Et il y a parfois des gens, tu vois, qui m'envoient des projets et qui disent « Je crois que mon projet pourrait tout à fait convenir au théâtre de la Toison d'Or. » Et t'as envie de dire « Mais c'est pas... Où est-ce qu'il... » où est-ce qu'ils croient qu'ils sont, tu vois. Et pourtant, le théâtre Zondo, c'est un théâtre. Enfin, je dis, j'ai pas la prétention d'avoir un truc magique, incroyable.
Je pense que c'est une formule de politesse maladroite.
Sans doute. Mais ce qu'il y a, c'est que.
C'est à moi de juger. Et puis surtout,
c'est pas évident de remplir une salle de 220 places. Mais je trouve que ton idée est excellente et je te promets, je m'engage ici. devant ce micro, que si je fais des espèces d'auditions de pièces tous les lundis, je dirais que c'est d'après une idée de Dan Gagnon. Mais je te le jure.
Ok. Ok, je la donne quand même. Ok. Ok. Et je serai là. Tu sais quoi, je viendrai même lire un texte.
Si ah,
tu
voilà.
Tu me donneras le texte le plus impossible à faire. En plus, okay. Moi, je joue la comédie comme une merde. Donc,
Okay.
Je serai le premier à me ridiculiser s'il faut.
Je trouve que c'est une bonne idée. Moi, j'avais envie de refaire. J'ai eu pendant des années du café-théâtre au théâtre chez moi, où on confiait le café-théâtre à des jeunes comédiens issus du conservatoire ou d'école. Et c'était génial parce que c'était un vivier incroyable. Moi, j'ai découvert des comédiens comme aujourd'hui, on entend, il y a Julie Duroisin, Catherine de Crelier. Tout ça, ce sont des gens qui sont issus du café-théâtre chez moi. Et voilà, on a arrêté maintenant depuis 3 ans. Et là, je crois que je vais le refaire parce qu'on a acheté le lieu, comme je disais au début de l'émission. Et donc, on a un peu cassé quelques murs et on a agrandi le resto. Toi, tu es venu quoi, il y a un mois et demi.
Ouais.
Tu serais étonné de voir ce qu'il y a maintenant.
Ah oui, ça change.
Oui, oui, oui. Et donc là, j'ai envie de relancer ça parce que je crois que les jeunes comédiens, c'est important que ce vivier existe au sein de mon théâtre.
Et je pense que c'est important de se bouger avec la forme aussi. Je pense que tu as plein de jeunes qui veulent aller voir des nouvelles choses,
oui.
Et qui sont presque... Mais voilà, on se plaint des fois que c'est difficile de vendre le spectacle vivant. On se casse le cul à faire des spectacles vivants différents,
oui.
Mais on les vend de la même manière qu'il y a 50 ans.
Oui,
il faut aussi bouger le truc. Nous, encore une fois, pour revenir sur cet exemple-là, au Comedy Club, le code était super clair. Il y a des gens qui n'ont jamais fait ça de leur vie.
Oui, oui.
Et donc, pour le public, c'était super. Parce que bon, c'est pas... il y en a qui se sont plantés, ça arrive. C'est pas agréable.
Bien sûr.
Mais il y avait une espèce de respect du... Ah, le gars, je sais pas, il fait tel boulot dans la vie, et ça fait... puis il se dit, putain, depuis 10 ans que j'ai envie de le faire, il le fait.
Oui, oui.
T'as aussi une fille de 13 ans qui est venue et son truc était franchement... 13 ans. Son truc était tout à fait... Tu sais, il était pas tout à fait prêt.
Non, mais
c'est... Si moi, à 13 ans, je m'étais bougé, j'aurais eu 15 ans d'avance. J'ai commencé à 27-28.
Oui, oui.
Et quand la fille, donc, elle a perdu son match, mais elle s'est fait applaudir par tout le monde parce que tout le monde reconnaissait. Tu te dis, tu sais, cette fille-là, dans 5-10 ans, elle va botter les fesses de tout le monde.
C'est clair.
Là où il y en a qui vont commencer à dire, ah oui, moi, j'ai 10 ans d'expérience, j'ai 23 ans.
Bien sûr.
Toi, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? J'ai joué à la Game Boy.
Oui.
Vieille référence Game Boy. Enfin, bref, donc, je pense que c'est intéressant d'avoir le spectacle et l'histoire autour du spectacle aussi.
C'est vrai. Oui, c'est vrai.
Super. Ben, Nathalie, tu m'avais dit qu'il fallait que tu partes à une certaine heure et on est H plus 20 minutes.
Parfait.
Donc, voilà, on va arrêter. On a bien causé. C'était super agréable de causer avec toi.
Moi aussi, c'était très gai, très chouette.
Et on se recroise. S'il y en a qui veulent te joindre, on est peut-être dire que t'es formidable. T'es sur Facebook, Twitter, quelque chose.
Ben oui, je suis sur Facebook, bien active.
Bien active.
Oui. J'ai pas ma page, hein, mais je peux plus prendre d'amis parce que je suis à 5000 et je ne passe pas en page fan 2, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Il y a moyen de me suivre et je mets mon Facebook est visible
et
par
Ouais. Comme ça, t'as pas l'impression d'être vieille. Ouais.
Voilà.
Tu maîtrises encore les nouvelles technologies.
Moi, je suis très geek, en fait.
Oui?
J'adore.
T'es la Jacques Mercier du théâtre.
Non. Parce que je... Oh, non. Non, ça, tu vois, j'adore Jacques Mercier. J'ai énormément d'affection pour lui. Mais ça, je crois que c'est le compliment qu'il fallait pas me dire. Parce que... J'espère que le jour où je tweeterai comme Jacques, il faudra absolument que quelqu'un me dise non Nathalie ça suffit, arrête quoi, non je suis geek, j'aime être sur mon ordi, tu vois, j'aime aller voir tout ce qui se fait et tout ça, mais voilà, j'espère que pour l'instant je suis comment dire, tu vas devoir couper là,
je pourrais t'aider.
Tu pourrais m'aider?
Je pourrais t'aider.
Tu dirais en québécois ou quoi?
Non.
J'y vais, mais doucement, quoi. Tu vois que je ne suis pas trop... j'envahis pas ma page de bons sentiments et de phrases toutes faites, j'espère.
Voilà, et pour ceux qui ne te connaissent pas, je vous incite à aller voir. C'est encore une jolie femme, tiens. Honnêtement, dans
tu
sa
crois,
catégorie...
Je le fais encore.
Est encore
oui, enfin, bon, forme, hein. Quand même fort cougar, mais bon...
c'est la mode.
C'est la mode.
Parfait. Merci beaucoup, Nathalie.
Merci, Dan.
Bisous, bon, bye.